Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique est à Nantes, dans l'ouest de la France, où se tient ce week-end la deuxième édition des Géopolitiques de Nantes, une initiative de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Un monde toujours plus inégalitaire, est-ce inéluctable? La question posée pour ce débat sous-tend l'affirmation selon laquelle, oui, les inégalités mondiales se creusent. Est-ce effectivement le cas? Les inégalités se creusent-elles ou au contraire enregistrent-elles un recul? Et de quelles inégalités parle-t-on? Inégalités de quoi? Inégalités entre qui? Pour donner un exemple, l'enrichissement de la Chine qui figurait au début des années 80 parmi les pays les plus pauvres du monde a fait reculer les inégalités mondiales. Que cache ce recul statistique alors que par ailleurs on évoque un rééquilibrage de la distribution du produit mondial entre nations depuis la dislocation du bloc soviétique? Enfin, autre aspect de notre monde inégalitaire, la très forte concentration de la valeur ajoutée mondiale entre quelques grandes puissances économiques. En 2012, 60% des pays de la planète ne produisaient guère plus de 2% du produit intérieur brut mondial, alors que 5%, soit 10 pays, ont généré plus de 63% des revenus mondiaux. Inégalité qui permet de mieux saisir le poids prépondérant dans la gouvernance mondiale de clubs comme le G8. Que reflète enfin l'émergence d'une véritable classe moyenne mondiale? De quoi est-elle le signe en réponse à la question qui nous est posée quant à un monde toujours plus inégalitaire? Quels sont les facteurs d'évolution des inégalités mondiales et des tendances récentes? La pauvreté est-elle une fatalité? En quoi les inégalités entre pays constituent-elles une menace pour la planète? Quels sont les risques? Un monde juste est-il possible, réalisable? Quelles en sont les conditions? Beaucoup de questions pour nos intervenants. Suzanne George, écrivain, présidente du conseil d'administration du Transnational Institute, basée à Amsterdam, institut de recherche décentralisé dont les membres se consacrent à l'étude des rapports Nord-Sud. Auteur d'une quinzaine de livres, dont le prochain apparaître en octobre, Les Usurpateurs, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir, apparaître aux éditions du Seuil. Marie Durubella, sociologue, spécialiste des questions d'éducation et de stratification sociale, professeure émérite à l'Institut d'études politiques de Paris et chercheure à l'Observatoire sociologique du changement, auteur de « Pour une planète équitable, l'urgence d'une justice globale », au Seuil également. Jean Ziegler, homme politique, sociologue et écrivain suisse, ancien rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme en charge des droits économiques, sociaux et culturels, auteur de nombreux ouvrages également dont Destruction massive, géopolitique de la faim aux éditions du Seuil. Et enfin Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, directeur de la revue sociétale, chroniqueur au journal Le Monde sur l'histoire des idées économiques. Dernier ouvrage paru, L'état de connivence, en finir avec les rentes chez Odile Jacob. Que sait-on au juste en termes d'inégalités et de quelles inégalités doit-on parler pour mesurer si le monde est plus inégalitaire aujourd'hui qu'hier? Inégalités de revenus, de capital, d'éducation, d'accès aux besoins alimentaires, d'alimentation. Comment les inégalités ont-elles évolué ces dernières années, Marie Durubella?
Oui, je pense que cette question qui a l'air simple, on est tenté de répondre oui, parce que rien que l'intitulé de la table ronde a l'air de suggérer que, effectivement, les inégalités s'accroissent. Mais je pense qu'il faut quand même faire un certain nombre de distinctions, en particulier ce qui est inégalité au sein des pays ou inégalité entre les pays. Dans la plupart des pays, notamment des pays plutôt riches comme le nôtre, les inégalités de revenus ont beaucoup augmenté ces dernières années, avec notamment l'explosion de ce qu'on appelait les super-riches, hein, qui a creusé les inégalités. Ces super-riches existent maintenant dans un certain nombre de pays émergents. Donc au sein des pays, on a plutôt cette croissance des inégalités, y compris dans les pays pauvres, quand ils s'industrialisent. Hein, c'est souvent un prix à payer à l'industrialisation, une explosion des inégalités. Entre les pays, c'est plus compliqué. Je pense qu'on va être amené à rentrer un petit peu dans le détail. Parce que effectivement, si on prend en compte des pays très peuplés comme l'Inde ou la Chine, et qu'on regarde l'évolution des inégalités mondiales, on dira ben, y a moins de pauvres, parce que ces pays très peuplés ont vu leurs ressources augmenter. Par contre, on peut raisonner au niveau des pays et voir qu'il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique subsaharienne, qui ne parviennent pas à décoller. Et là, le jugement est plus pessimiste. Donc, ça dépend vraiment l'indicateur qu'on va privilégier.
Suzanne George.
Je crois que ce serait peut-être utile pour ceux qui nous écoutent de savoir comment on mesure tout ça. Ça s'appelle un coefficient de Gini, d'après un économiste italien dans les années 20 qui a inventé un coefficient qui permet de fixer un chiffre entre 0 et 1. 0, c'est quand tout le monde a la même chose, exactement les mêmes revenus. Et un, c'est quand une personne a tout. Alors évidemment, ces deux extrêmes sont impossibles. Et ça ne vous dit rien sur la quantité d'argent ou de revenus qui existent dans le pays. Ça dit simplement comment la richesse qui existe est partagée. Et donc, si vous êtes un pays plutôt égalitaire, comme le Luxembourg, le Danemark, la Suède, la Finlande,
plutôt l'Europe du Nord,
vous avez un coefficient très bas. Ce sera moins de 0,30. Si vous êtes très inégal, comme maintenant l'Afrique du Sud, vous aurez un coefficient très élevé de l'ordre de 0,65. Mais si vous êtes dans le milieu, il y a tout de même des degrés extrêmement différents. Et si la France est plutôt dans les 30 quelque chose, les États-Unis a dépassé les 40. Et alors ça commence à être grave parce que ça indique que les différences entre le haut et le bas de cette société sont très accusées. Je connais peut-être mieux les statistiques pour les États-Unis que pour d'autres pays. Et là, on peut vraiment dire qu'on n'habite plus du tout la même société. Ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, c'est deux pays tout à fait différents, au point où ceux en bas ont maintenant des maladies tropicales que l'on ne trouvait que dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Les États-Unis que moi j'ai connus étaient beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus soudés, une cohésion sociale beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et cela a changé depuis 30 ans, en gros. C'est depuis que le néolibéralisme, c'est-à-dire la mondialisation néolibérale, est entrée en jeu que les États-Unis sont devenus de plus en plus inégales et que si vous êtes pauvre aux États-Unis, vous allez avoir une vie extrêmement difficile. Et si on prend les salaires simplement, un salaire de patron, autrefois, c'était de l'ordre de 20 à 30 fois son ouvrier de base. Maintenant, c'est de 2 à 400 fois plus élevé que l'ouvrier de base.
Est-ce qu'il est possible d'évaluer au jour d'aujourd'hui si oui ou non les inégalités se sont accentuées, Jean-Marc Daniel ?
Je crois que effectivement, bon, il y a des outils statistiques. Le coefficient de Gini est un outil statistique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand on regarde les coefficients de Gini, d'abord, c'est des répartitions de revenus, c'est des rapports de surface à partir de répartitions de revenus. Il faut connaître les revenus. Et donc, le pays le plus inégalitaire, c'est le Lesotho. Mais le pays le plus égalitaire, c'est le Danemark et l'Éthiopie. L'Éthiopie, l'appareil statistique de l'Éthiopie me paraît assez... Enfin, c'est peut-être une critique injuste à l'égard de l'Éthiopie, mais bon. Donc, je veux dire, toutes ces statistiques sont des statistiques qui sont effectivement difficiles à manier. Je ferai quand même trois remarques par rapport à ça. C'est-à-dire que, indépendamment de ces statistiques sur les revenus, les inégalités sont réduites, en ce sens qu'il y a des inégalités de destin qui ont changé. Concrètement, le progrès technique réduit les inégalités. Schumpeter raconte en deux mots une histoire simple. Il prend l'homme le plus puissant au XVIIIe siècle, c'est Louis XV. Il regarde comment vit le paysan à côté de lui, et il dit: le paysan la nuit dort, Louis XV s'il a envie de lire la nuit, il tape sur une sonnette et 5 minutes après, il y a la quantité de lumière dont il a besoin pour lire qui lui arrive. Puis quand il écrit ça, on est en 1948, il dit: quel est l'homme le plus puissant de la planète? C'est Truman. Quand Truman veut lire la nuit, il est 3h du matin, il appuie sur un bouton et il a immédiatement de la lumière, il a gagné 10 minutes par rapport à Louis XV. Le paysan du Maryland, qui est comme l'était le paysan français à côté de Louis XV au XVIIIe siècle, mais lui s'il veut lire, il peut lui aussi lire. Et donc cette rupture d'inégalité, ce changement dans le style de vie sur le long terme est assez spectaculaire. Et donc c'est ce qu'on trouve en Inde à l'heure actuelle, ce qu'on trouve en Chine, c'est effectivement une mutation considérable des inégalités de vie. Le deuxième remarque que je ferais, c'est que ce qui est important, les inégalités, c'est aussi la mobilité sociale. C'est-à-dire que qu'il y ait des gens riches, c'est ce que disait Kennedy, donc vous parlez de... Enfin, je signale quand même qu'aux États-Unis, la discrimination raciale a été abandonnée il y a 50 ans. C'est-à-dire les textes de Johnson qui mettent fin à la discrimination raciale, c'est né qu'il y a 50 ans. Je ne sais pas si l'afro-américain du Mississippi en 1950 considérait qu'il avait un destin plus enviable que maintenant. Mais donc ça fait pas... Mais concrètement, si vous voulez, je pense que donc ce que disait Kennedy, l'enjeu, c'est pas de lutter contre la richesse, c'est de lutter contre la pauvreté. Les communistes luttent contre la richesse, moi je lutte contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, c'est la capacité de chacun à effectivement exprimer son talent et à changer de position dans la hiérarchie sociale. Et donc, il y a des enjeux de mobilité sociale. Alors là, c'est très divers d'une société à l'autre. Il y a tout un enjeu autour de l'éducation. Je pense que vous aurez plus à intervenir. C'est tous ces éléments qu'on appelle l'indice de développement humain. Et donc là, on a plutôt une amélioration de la mobilité sociale qui s'est faite sur ces dernières années, mais on est à un palier, à une stagnation. La dernière remarque que je ferai pour cette, c'est que quand on regarde au niveau du monde, en fait, le monde est en train de se spécialiser, en fait, de se réorganiser sur des critères qu'on n'avait pas connus précédemment. Premièrement, il y a un impact considérable des revenus rentiers dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire que le maintien des prix du pétrole à des niveaux très élevés depuis une quarantaine d'années fait qu'un certain nombre de pays et de sociétés ont accumulé des richesses considérables. L'excédent extérieur, le troisième excédent extérieur mondial, c'est l'Arabie Saoudite. Le premier propriétaire mondial d'entreprise, c'est le fonds souverain norvégien. Donc là, vous avez une concentration de la richesse qui est liée à une rente, qui est un mécanisme qui déforme complètement l'économie. Et aucune rente précédente, que ce soit la rente charbonnière, que ce soit les rentes agricoles, n'avait atteint ce genre de situation. La deuxième chose, c'est que le monde est en train d'avoir des vieux qui ne sont plus aux endroits où étaient les jeunes. Là aussi, ça a des modifications de la répartition de l'épargne. Le premier pays en excédent extérieur au monde, c'est l'Allemagne. Et pourquoi ? Parce que l'Allemagne est un pays en train de vieillir. Le Japon a une population qui va diminuer de 1 million d'habitants. Et donc, vous avez une société qui s'est totalement restructurée, réorganisée autour de son vieillissement. Et je crois que quand on parle d'inégalité, il faut bien voir que les vieux n'étant plus au même endroit que les jeunes, un des enjeux, ça va être effectivement ce rapport de force entre les jeunes et les vieux, parce que ça devient un rapport de force, qui est aussi un rapport de force national. Et le troisième élément que je dirais sur cette répartition des inégalités, sur la répartition des revenus au niveau mondial, c'est que... La société qu'on est en train de constituer, c'est-à-dire les pays qui ont de fortes croissances, ce sont ceux qui ont fait l'investissement de l'économie de la connaissance.
Alors j'ai senti que Marie Durubella souhaitait rebondir peut-être sur les questions de pauvreté, mais Jean Ziegler.
Dans le titre du débat ce soir, il y a deux questions différentes qui ont été magnifiquement exposées jusqu'à maintenant. Un monde toujours plus inégalitaire, oui, je vais le dire tout à l'heure pourquoi. Est-ce inéluctable ? Non, je vais aussi dire pourquoi. Nous vivons, première question, nous vivons certainement sous un ordre cannibale du monde. L'année dernière, selon l'annuaire statistique de la Banque mondiale, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, toutes secteurs confondus, ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites, marchandises, capitaux, brevets, services, en une année sur la planète. 52,8%. C'est cette oligarchie du capital financier mondialisé, nombre très réduit, a un pouvoir comme jamais un pape, un empereur, un roi n'a eu sur cette planète. Et en plus, ces transcontinentales, ces maîtres du monde, ces oligarchies du capital financier transcontinental échappent à tout contrôle syndical, parlementaire, national, international, totalement. Et fonctionne, ce qui est tout à fait normal, c'est pas une critique de ma part, tout à fait normal, fonctionne selon un seul principe, c'est la maximalisation du profit. Et entre eux, c'est la jungle et la lutte au couteau tiré. Et d'autre part, nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, pour une majorité des hommes et femmes et enfants sur Terre, la misère augmente. Je vous donne un seul exemple, tous les 5 secondes sur cette planète, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Tous les 5 secondes. 57 000 personnes par jour et près d'un milliard sont en permanence gravement sous-alimentées. Alors que le même World Food Report dit que l'agriculture mondiale, pour la première fois dans l'histoire des hommes, pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains. Donc presque le double de l'humanité. Pour la première fois sur cette planète, le manque objectif a disparu. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. L'année dernière, 13% de la population du monde ont contrôlé 78% des richesses, des biens produits sur cette planète. Donc, inégalité terrifiante, meurtrière et qui augmente. Est-ce inéluctable ? Est-ce inéluctable ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout inéluctable. Je prends un seul exemple pour être vite, parce que la rédactrice en chef me regarde un peu méchamment. Très rapidement, une des raisons, je reste avec la faim, une des raisons pour le massacre quotidien de la faim, qui est le scandale absolu de notre temps, un des scandales, mais enfin celui qui me totalement intolérable, c'est la spéculation boursière sur les aliments de base. Aliments de base, c'est maïs, riz et blé, qui couvrent 75% de la consommation mondiale en temps normal. Eh bien, ce qui est tout à fait légal, la spéculation boursière sur les aliments de base, qui après l'effondrement des marchés financiers intéresse prioritairement maintenant les grands groupes bancaires, les spéculateurs, etc., etc., les hedge funds, fait augmenter, exploser, je pourrais vous donner les chiffres, exploser les prix mondiaux du maïs, du blé et du riz. Et dans les bidonvilles du monde où vivent 1 milliard de personnes sur cette planète, dans les favelas, dans les slums de Karachi, etc., etc., où la mère, avec très peu d'argent, doit acheter la nourriture quotidienne, eh bien, la mort sévit, parce qu'elle ne peut pas acheter, et des millions et des millions et des millions d'enfants de plus meurent de faim.
Vous avez évoqué le coût humain de ces inégalités, de la pauvreté. Je me tourne vers vous, Marie Di Rubella. Qu'est-ce que l'on peut dire, finalement, des conséquences sociales, économiques? Est-ce que, comment peut-on mesurer, finalement, le coût des inégalités?
Je pense que c'est une question importante parce que on a parlé à la fois de la pauvreté et des inégalités. La pauvreté, d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est facile à éradiquer, mais tout le monde est contre. Personne ne défend le fait que certains enfants meurent de faim. Les inégalités, c'est un peu plus subtil. Il y a des gens qui peuvent les défendre, qui diront, après tout, il y a des inégalités entre pays. Si c'est mérité, s'il y a de l'égalité des chances, pourquoi pas? Or, ça, je crois que c'est un point de vue qu'il faut vraiment critiquer. Et donc, je pense qu'il faut développer des arguments pour convaincre, à mon avis, il faut convaincre, que c'est bien la lutte contre les inégalités entre pays qui doivent être sur le devant de la scène, hein, au-delà de la lutte contre la pauvreté. Alors, il y a trois types de raisons, à mon avis, qu'il faut mettre en avant. D'abord, des raisons sociologiques. On sait que quand un pays est très inégal, eh bien, ça va faire baisser, affecter, mais à la baisse, ce qu'on appelle la cohésion sociale. Les gens vont s'envier, les très riches ne vont pas imaginer la situation des plus pauvres, et donc, quand ils sont au pouvoir, ce qui est en général le cas, ils vont voter des textes qui ne prennent pas en compte les intérêts des plus pauvres, etc. Donc, on sait que quand les inégalités sont fortes au sein d'un pays, la mobilité sociale va être plus difficile parce que les enfants grandissent dans des familles inégales et c'est très difficile de réaliser alors l'égalité des chances. Donc, il y a des effets sociologiques qui font dire que les inégalités, en tant que telles, elles posent un problème. Alors, évidemment, au niveau mondial, c'est moins clair, mais au niveau mondial, on peut penser que les gens dans les pays savent qu'ailleurs on est beaucoup plus riche. Et ça entraîne aussi des phénomènes, des migrations, des troubles, des tensions, voire du terrorisme. Donc ça, c'est une première famille de raisons. Il y a des effets sociologiques à ces inégalités entre pays. Une deuxième famille de raisons, c'est des raisons économiques. L'inégalité entre pays nourrit un modèle économique très particulier que certains économistes, dont Severino, qui n'a pas pu être là, appellent un modèle du pauvre vers le riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certains pays jusqu'alors plus pauvres, par exemple comme la Chine, on va exploiter son marché intérieur pour faire des chaussettes à bas coût qu'on va vendre aux pays riches. Dans les pays riches, on va peut-être être content d'avoir des chaussettes pas chères, mais on va fermer des usines. Donc, il va y avoir un coût aussi dans ces pays. Donc, ces inégalités entre pays nourrissent des phénomènes de ce type, économiques, qui ne sont pas soutenables. Parce qu'en Chine, on commence à rouspéter, et en France, on proteste contre les délocalisations. Et troisième famille d'effets, peut-être qu'on en reparlera, ça me paraît extrêmement important, c'est que les inégalités entre pays nourrissent aussi, à terme, des problèmes écologiques très, très importants. Parce que dès lors que les pays sont inégaux, les plus pauvres gardent les plus riches. Ils veulent consommer comme eux. Ils veulent essayer de rattraper ce standard, ce mode de vie des pays riches. Or, ça, on sait bien que on va droit dans le mur. On sait très bien que si dans tous les pays du monde, on vit comme les Américains, la planète, elle explose. Donc, il y a vraiment là un problème extrêmement important et qui est d'autant plus important qu'on est interdépendant. Nos consommations à nous, elles jouent sur les autres. Tout à l'heure, Jean Ziegler revenait sur cette question du prix des céréales. Si on développe, par exemple, la consommation de viande dans les pays les plus pauvres, ça va faire exploser le prix des céréales et ailleurs, des gens vont trinquer. Donc, on est sur le même bateau. Donc, dès lors qu'il y a une seule planète et qu'il y a des inégalités entre pays, à terme, il y a des problèmes écologiques.
Géopolitique, nous retrouvons Suzanne Georges, Marie Di Rubella, Jean Ziegler et Jean-Marc Daniel dans quelques instants. À tout de suite.